Chapitre 33 à Mohammad Ibrahim i Khalil. Nous avons décrété que le Verbe de Dieu, avec toutes les potentialités qu'il renferme, sera manifesté aux hommes dans une stricte conformité avec les conditions préétablies par celui qui est l'Omniscient, le Très-Sage. Nous avons de plus ordonné qu'il ne soit caché que sous le voile de son être même. Tel est en vérité le pouvoir que nous avons d'en venir à nos fins. Si le Verbe libérait d'un seul coup les énergies qui sont en lui latentes, il n'est point d'homme qui pourrait soutenir le poids d'une si puissante révélation. Bien plus, tout ce qui est dans le ciel et sur la terre fuirait devant lui dans la plus profonde consternation. Considère ce qui fut envoyé à Mohammed, l'apôtre de Dieu. La mesure précise de la révélation qu'il apportait avait été clairement préétablie par celui qui est le Tout-Puissant. Ceux qui l'entendaient ne pouvaient le comprendre que dans la mesure de leur capacité et de leur développement spirituel. Et lui-même, dosant en conséquence sa révélation, ne découvrait le visage de la sagesse qu'à proportion de la capacité qu'avaient ses auditeurs de soutenir le poids de son message. Mais l'humanité n'eut pas plutôt atteint le stade de maturité que le Verbe révéla les énergies dont il avait été doté. Et c'est dans la plénitude de leur gloire qu'il les manifesta quand, en l'an 60, apparut la beauté antique en la personne de Ali Mohammad, le Bab. Chapitre 34 À un inconnu. Louange et gloire à Dieu, qui par le pouvoir de sa puissance revêt du manteau de la vie la nudité de la non-existence de sa création. Entre toutes choses créées, il a élu pour objet de sa faveur spéciale le joyau de l'essentielle réalité de l'homme, en l'investissant de la capacité exclusive de le connaître et de refléter la grandeur de sa gloire. Cette double distinction décape le cœur de l'homme de la rouille des vains désirs, et elle le rend digne de la livrée dont son Créateur a daigné le revêtir. Elle sauve son âme des ténèbres de l'ignorance. Cet habit dont le corps et l'âme de l'homme sont ornés est le fondement même de son bien-être et de son développement. Béni le jour où, avec l'aide de la grâce et de la puissance du seul vrai Dieu, il sera libéré de l'esclavage et de la corruption du monde, et aura atteint le vrai et durable repos à l'ombre de l'arbre de la connaissance. Les chants, quand son grand amour pour ses amis, l'oiseau de ton cœur modulé, ont atteint leurs oreilles, et il me pousse à répondre à tes questions en te révélant les secrets qu'il m'est permis de dévoiler. Tu demandes, en ta noble lettre, lesquels des prophètes de Dieu doivent être tenus pour supérieurs aux autres. Sache, à n'en point douter, que ces prophètes, en leur essence, ne font qu'une seule et même personne. Leur unité est absolue. Dieu, le Créateur, dit « Il n'y a aucune sorte de distinction entre les porteurs de mon message. » Ils n'ont tous qu'un seul et même objet, et le secret de l'un est le secret de l'autre. Honorer l'un de préférence aux autres, en exalter certains au-dessus des autres, n'est permis en aucune façon. Tout vrai prophète a tenu son message pour foncièrement le même que les messagers des prophètes qui l'avaient précédé. Si, faute de comprendre cette vérité, quelqu'un se laissait aller à de vaines et inconvenantes paroles, il n'est personne d'esprit subtil et d'intelligence éclairée qui permettrait à de si futiles propos de l'ébranler dans sa croyance. Seul doit différer la mesure de la révélation apporté au monde par les prophètes de Dieu. Chacun d'eux reçoit un message distinct, avec mission de se révéler d'une certaine manière. C'est ainsi que semble varier leur grandeur. Leur révélation peut être comparée à la lumière que la lune répand sur la terre. Bien que, chaque fois qu'elle paraît, elle donne de son éclat une mesure nouvelle, sa splendeur inhérente reste cependant la même, et sa clarté ne peut s'éteindre. Il en ressort avec évidence que toute apparente variation dans l'intensité de la lumière apportée par les divers prophètes n'est pas inhérente à cette lumière même. mais qu'elle doit être imputée à la réceptivité variable d'un monde en perpétuel devenir. Chaque prophète que le Tout-Puissant Créateur décide d'envoyer au peuple de la terre reçoit avec son message la mission d'agir de la façon qui convient le mieux au temps dans lequel il apparaît. Dieu, en lui confiant cette mission, a un double objectif. Il se propose d'abord de libérer les enfants des hommes des ténèbres de l'ignorance, de les guider vers la lumière de la vraie compréhension, et ensuite d'assurer la paix et la tranquillité de l'humanité en lui fournissant tous les moyens par lesquels elles peuvent être établies. Les prophètes de Dieu doivent être considérés comme des médecins dont la tâche est d'accroître le bien-être du monde et de ses peuples, afin de guérir, par l'esprit d'unité, la maladie d'une humanité divisée. Personne n'a le droit de mettre en doute leurs paroles ni de dénigrer leur conduite, car ils sont les seuls qui puissent prétendre avoir compris le patient et diagnostiquer exactement sa maladie. Il n'est point d'homme, si intelligent soit-il, à qui il soit permis d'atteindre les sommets où s'est élevée la sagesse du médecin divin. Rien d'étonnant en conséquence si ce médecin prescrit aujourd'hui un remède différent de celui qu'il a ordonné autrefois. Comment en pourrait-il être autrement, alors que la maladie exige pour chacune de ses phases un traitement particulier? De même, toutes les fois que les prophètes de Dieu illuminent le monde de l'éclat resplendissant du soleil de la science divine, c'est invariablement par les moyens les plus convenables à l'âge où ils apparaissent qu'ils appellent ces peuples à embrasser la lumière de Dieu. Ils peuvent de la sorte dissiper les ténèbres de l'ignorance et répandre sur le monde la gloire de leur science. Et comme d'autre part, leur seul et unique objet a toujours été, dans toutes les révélations, de guider les égarés et d'apporter la paix aux affligés, c'est vers leur essence intime que tout homme doué de discernement doit d'abord tourner ses regards. L'état présent du monde n'est pas celui du triomphe et de la prospérité. L'humanité tout entière est en proie à de multiples maladies. Qu'on s'efforce donc de lui sauver la vie au moyen du remède bienfaisant préparé par la main toute-puissante de l'infaillible médecin. Passons maintenant à ta question concernant la nature de la religion. Sache pour commencer que ceux qui sont vraiment sages ont comparé le monde au temple humain, et de même que le corps de l'homme a besoin d'un habit pour le vêtir, de même le corps de l'humanité doit être paré du manteau de la justice et de la sagesse. Son vêtement est la révélation qui lui est envoyée de Dieu. Dès que ce vêtement a rempli son objet, le Tout-Puissant le remplace. Car une mesure nouvelle de la lumière de Dieu est nécessaire à chaque âge. Et chaque révélation divine a été dispensée et dosée dans les conditions qui convenaient le mieux à l'âge où elle apparaissait. Pour ce qui est de ta question relative à ce qu'ont pu dire les dirigeants des anciennes religions, tout homme sage écartera sans aucun doute un sujet aussi vain. Le Créateur incomparable tire tous les hommes d'une même substance et exalte leur réalité essentielle au-dessus de tout le reste de ses créatures. Succès ou échec, gain ou perte, dépendent en conséquence de leurs propres efforts. Plus grands seront ces efforts et plus ils progresseront. Nous voulons espérer que les ondées printanières de la générosité divine feront jaillir de leur cœur les fleurs de la véritable compréhension et les purifieront de toute souillure terrestre. Chapitre 35. À un inconnu. Réfléchis un instant. À chaque révélation, qu'est-ce qui pousse les peuples de la terre à rejeter la manifestation du très miséricordieux? Qu'est-ce qui les incite à se détourner de lui et à récuser son autorité? Si les hommes voulaient méditer sur les paroles qui ont coulé de la plume du divin ordonnateur des choses, ils se hâteraient tous, sans exception, d'embrasser la vérité de ce don de Dieu qu'est la révélation éternelle, et il rendrait témoignage à ce qu'il a lui-même solennellement affirmé. Mais au jour des manifestations de l'unité de Dieu et des sources de sa gloire éternelle, le voile des vaines imaginations s'interpose entre elle et le reste de l'humanité, et il en sera toujours ainsi. Car en ces jours-là, celui qui est l'éternelle vérité se manifeste conformément à ce qu'il a lui-même décidé, et non selon les désirs et les attentes des hommes. Ainsi qu'il est révélé, parce que les apôtres viennent à vous, apportant ce qui va à l'encontre de vos désirs, continuerez-vous à vous enfler d'orgueil, traitant les uns d'imposteurs et massacrant les autres? Il n'est pas douteux que si, dans les âges et cycles passés, ces apôtres eussent répondu aux vaines idées que les hommes se faisaient d'eux, nul n'aurait répudié la vérité apportée par ces êtres sanctifiés. Bien qu'invoquant jour et nuit le seul vrai Dieu et profondément engagé dans la dévotion, de tels hommes ne surent finalement pas reconnaître la grâce de ces aurores des signes de Dieu, ces manifestations de ces preuves irréfutables. De cela, tu le sais parfaitement, les Écritures portent témoignage. Considère la révélation de Jésus-Christ. Vois comment les savants de cette génération, bien qu'ils eussent ardemment souhaité la venue du promis de Dieu, le renièrent. Anne, le plus savant des religieux de son temps, comme Caïphe, le grand prêtre, le dénoncèrent et prononcèrent contre lui la sentence de mort. De même, quand apparut Muhammad, le prophète de Dieu, puissent tous les hommes s'offrir à lui en sacrifice, les savants de la Mecque et de Médine, dès les premiers jours de sa révélation, se rebellèrent et rejetèrent son message, tandis que les humbles et les ignorants reconnaissaient et embrassaient sa foi. Réfléchis un moment. Considère comment Balal, l'Éthiopien, tout illettré qu'il fut, s'éleva jusqu'au ciel de la foi et de la certitude, cependant que Abdullah Ubayy, un des premiers parmi les savants, s'opposait malignement à lui. Admire comment un simple berger, en entendant la parole divine, fut ravi d'une telle extase qu'il en obtint l'accès à la demeure du bien-aimé et se trouva uni à celui qui est le Seigneur de l'humanité. Alors que ceux qui s'enorgueillissaient de leur science et de leur sagesse s'écartaient de son chemin et restaient privés de sa grâce. C'est pourquoi il est écrit « Quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé ». On trouve des références à ce thème dans la plupart des livres saints, aussi bien que dans la tradition orale des prophètes et messagers de Dieu. Je vous le dis, en vérité, telle est la grandeur de cette cause, que le Père fuit son Fils et le Fils fuit son Père. Rappelez-vous l'histoire de Noé et de Canaan. Dieu veuille qu'en ces jours de céleste délice, vous ne vous priviez pas des douces saveurs du très glorieux, et qu'en ce printemps spirituel, vous ayez votre part des torrents de sa grâce. Levez-vous au nom de celui qui est l'objet de toute connaissance, et dans un absolu détachement du savoir humain, élevez la voix pour proclamer sa cause. Je le jure par le soleil de la révélation divine. À l'instant même, vous verrez jaillir de vos cœurs un flot de science divine, et vous contemplerez les merveilles de sa céleste sagesse, qui, dans toute leur gloire, se dérouleront à vos yeux. Si vous goûtiez à la douceur des paroles du très miséricordieux, vous n'hésiteriez pas à renoncer à vous-même et à offrir vos vies pour l'amour du bien-aimé. Qui pourra jamais croire que ce serviteur de Dieu ait à aucun moment nourri dans son cœur le désir de quelque honneur ou bénéfice terrestre? La cause à laquelle son nom est associé se trouve tellement au-dessus des choses transitoires de ce monde. Voyez-le dans cette très grande prison, exilé, victime de la tyrannie, assailli de toutes parts par ses ennemis qui le persécuteront jusqu'à la fin de sa vie. Ainsi, ce qu'il vous dit est dit uniquement pour l'amour de Dieu, afin que les peuples de la terre purifient leur cœur de la souillure des désirs mauvais, en déchirent le voile et parviennent ainsi à la connaissance du seul vrai Dieu, qui constitue le rang le plus sublime auquel un homme puisse aspirer. Qu'il croie ou non en ma cause, cela ne saurait me profiter ou me nuire. C'est uniquement pour l'amour de Dieu que nous les adjurons. Et Dieu, lui, n'a besoin d'aucune de ses créatures. Chapitre 36. À Fath et Azam. Sache que lorsque le Fils de l'homme rendit son âme à Dieu, toute la création fut secouée d'un long sanglot. Pourtant, il avait, en se sacrifiant, insufflé dans toute chose créée une capacité nouvelle. Les preuves qu'ont eues de lui tous les peuples de la terre sont aujourd'hui manifestes devant toi. La plus profonde sagesse exprimée par les plus sages des hommes, les plus hautes connaissances acquises par les plus savants d'entre eux, les arts produits par les mains les plus habiles, l'influence exercée par les plus puissants des monarques, ne sont que des manifestations du pouvoir vivifiant libéré par son esprit transcendant, omnipénétrant et resplendissant. Nous attestons que lorsqu'il apparut au monde, il répandit sur toute chose créée la splendeur de sa gloire. Par lui, le lépreux guérit de la lèpre de l'ignorance et de la perversité. Par lui, le débauché et le pervers furent purifiés. Par le pouvoir qu'il tenait du Dieu Tout-Puissant, les yeux des aveugles s'ouvrirent et l'âme des pécheurs fut sanctifiée. Peut être qualifié de lèpre, tout voile qui s'interpose entre l'homme et la reconnaissance du Seigneur, son Dieu. Et quiconque s'exclut délibérément de Dieu est un lépreux dont le souvenir ne sera point rappelé dans le royaume du Tout-Puissant, le Magnifié. Nous attestons que par le pouvoir du Verbe de Dieu, tout lépreux cessa d'être impur, toute maladie fut guérie et toute infirmité humaine abolie. Il est celui qui purifia le monde. Béni est l'homme qui se tourne vers lui avec un visage rayonnant de lumière. Chapitre 37. Kitabiardas. Heureux est l'homme qui professe la croyance en Dieu et en ses signes, et qui reconnaît qu'il ne lui sera pas demandé compte de ses actes. Dieu a fait de cette reconnaissance l'ornement et le fondement même de toute croyance. C'est d'elle que dépend l'acceptation de toute bonne action. Ne perdez point cela de vue, afin que les murmures du rebelle ne vous fassent pas trébucher. S'il décrète licite ce qui fut interdit de temps immémorial et interdit ce qui fut depuis toujours considéré comme permis, nul n'a le droit de contester son autorité. Quiconque hésite, ne serait-ce qu'un instant, doit être considéré comme transgresseur. Quiconque ne reconnaît pas cette vérité sublime et fondamentale et ne peut atteindre ce rang exalté sera agité par les vents du doute, et les propos des infidèles troubleront son âme. Celui qui reconnaît ce principe sera doté de la plus parfaite constance. Honneur à ce rang très glorieux dont le souvenir orne chaque tablette exaltée. Tel est l'enseignement que Dieu vous donne, qui vous délivrera de toute espèce de doute et de perplexité, et qui vous permettra d'obtenir le salut en ce monde et dans l'autre. Il est, en vérité, le magnanime, le très généreux. C'est lui qui envoie les messagers et fait descendre les livres pour proclamer « Il n'est d'autre Dieu que moi, le Tout-Puissant, le très sage. » Chapitre 38. À Mohammad Ibrahim et Khalil. Sache, à n'en point douter, qu'à chaque dispensation, la lumière de la révélation divine est dosée aux hommes en raison directe de leur capacité spirituelle. Considère le soleil. Combien faibles sont ses rayons quand il paraît à l'Orient, et comme sa chaleur et sa puissance vont croissant à mesure qu'il approche de son zénith, ménageant ainsi à toute chose créée la possibilité de s'adapter à l'intensité croissante de sa lumière. Et comme il décline graduellement jusqu'à ce qu'il atteigne le point où il se couche. S'il manifestait tout d'un coup les énergies qui sont en lui latentes, nul doute qu'il en résulterait un dommage pour toute chose créée. De même, si dès les premiers stades de sa manifestation, le soleil de vérité révélait soudain la pleine mesure des forces dont l'a doté la providence du Tout-Puissant, la terre de l'intelligence humaine dépérirait et serait consumée. Car jamais le cœur des hommes ne pourrait soutenir l'intensité d'une telle révélation, ni, par conséquent, refléter l'éclat de sa lumière. Consterné et accablé, il cesserait d'exister. Chapitre 39. Sourate ad-Dam à Muhammad Zarandi, Nabili Azam. Loué sois-tu, ô Seigneur mon Dieu, pour les merveilleuses révélations de ton décret impénétrable et pour la multitude des maux et des épreuves que tu m'as réservées. Tu m'as une fois livré aux mains de Nemrod, et tu as une autre fois permis à Pharaon de me persécuter. Tu es seul à pouvoir estimer, par ta science, qui embrasse toutes choses, et par l'opération de ta volonté, les afflictions incalculables dont j'ai souffert en leurs mains. Tu m'as ensuite jeté dans la geôle réservée aux impies, pour la seule raison que j'avais fait à l'oreille des habitants les plus dignes de ton royaume une timide allusion à la vision que tu m'avais envoyée, en m'en révélant par le pouvoir de ta puissance le sens intime et caché. Puis tu as décrété que j'aurais la tête tranchée par l'épée des infidèles, et j'ai été de surcroît crucifié pour avoir dévoilé aux hommes les perles cachées de ta glorieuse unité, et révélé à leurs yeux les signes merveilleux de ton pouvoir souverain et éternel. Qu'amères furent plus tard les humiliations accumulées sur ma tête dans la plaine de Karbila. Quel fut là mon isolement au milieu de ton peuple. À quel état d'abandon y fus-je réduit. Mais non content de ces indignités, mes persécuteurs me décapitèrent, et portant haut ma tête de pays en pays, ils en firent parade devant la multitude des infidèles, et la déposèrent en trophée aux pieds des pervers et des mécréants. Ma poitrine fut par la suite offerte en cible aux traits cruels de mes ennemis, mes membres criblés de balles et tout mon corps déchiré. Et vois comment, en ce jour, mes perfides ennemis se sont finalement ligués contre moi et ne cessent de comploter en vue d'instiller dans l'âme de tes serviteurs le venin de la malignité et de la haine. Ils font tout ce qui est en leur pouvoir pour atteindre leur but. Mais pour cruel que soit mon sort, je te rends grâce, ô mon Dieu, et mon cœur est rempli de gratitude pour tout ce qui m'est advenu dans le chemin de ton bon plaisir. Je suis heureux de tout ce que tu as ordonné pour moi, et bienvenues me seront, si affligeantes qu'elles puissent être, toutes les peines dont tu voudras encore m'accabler. Chapitre 40. À un inconnu. Ô mon bien-aimé, tu as insufflé en moi ton souffle, et tu m'as ainsi séparé de moi-même. Puis tu as décrété qu'au milieu des pervers et des envieux, il ne serait laissé en moi qu'un faible reflet, un simple emblème de ta réalité. Vois comment, trompés par cet emblème, ils se sont levés contre moi et ont amoncelé sur ma tête leur négation. Découvre-toi donc, ô mon bien-aimé, et délivre-moi de mon malheureux sort. Alors une voix répondit : J'aime, je chéris tendrement cet emblème. Comment pourrais-je souffrir que mes yeux soient seuls à le voir, qu'aucun autre cœur que le mien ne le reconnaisse ? Par ma beauté, qui est la même que ta beauté, je voudrais plutôt te cacher à mes propres yeux, et combien plus aux yeux des hommes. Je me préparais à répondre, quand soudain la tablette se trouva terminée, laissant mon thème inachevé et hors du collier la perle qui allait s'y ajouter. Chapitre 41. À Abul Hassan Feshchin. Dieu m'est témoin, ô peuple, j'étais endormi sur ma couche lorsque la brise divine, passant sur moi, me tira de mon sommeil. Je me sentis ranimé par son esprit vivifiant qui délia ma langue pour lancer son appel. Ne m'accusez pas d'avoir transgressé l'ordre de Dieu. Ne me voyez pas par vos yeux, mais par les miens. Ainsi vous adjure celui qui est le très gracieux, l'omniscient. Ô peuple, croyez-vous que je revendique le pouvoir de contrôler la volonté et le dessein de Dieu? Loin, bien loin de moi, pareille prétention. Je l'atteste devant Dieu, le Tout-Puissant, le Sublime, l'Omniscient, le Très-Sage. Le sort définitif de la foi divine eût-il dépendu de moi seul, que je n'aurais jamais, de ma propre initiative, consenti à me manifester devant vous, ni permis qu'un seul mot tombât de mes lèvres. De cela, Dieu lui-même m'est témoin. Chapitre 42. Paroles cachées. Ô Fils de justice, à la nuit, la beauté de l'être immortel se rendit des hauteurs émeraudes de la fidélité au Sadratul Muntaha et versa tant de larmes que l'Assemblée suprême et les habitants des royaumes célestes gémirent de ses lamentations. Et comme on lui demandait « Pourquoi ces pleurs et ces lamentations ?» Il répondit « Selon l'ordre reçu, j'attendais sur la colline de la loyauté, mais je n'ai pas senti le parfum de la fidélité chez les habitants de la terre. Alors, invité à repartir, je regardais, et voilà que des colombes de sainteté étaient meurtries entre les griffes des chiens de la terre. Sur ce, la Vierge céleste, sans voile et resplendissante, se précipita hors de son palais mystique, demanda leur nom, et tous furent donnés, sauf un. Sur son insistance, la première lettre en fut prononcée. Aussi, les habitants des retraites célestes s'élancèrent hors de leur demeure de gloire. Et tandis que la seconde lettre était énoncée, tous, sans exception, se prosternèrent dans la poussière. Alors, sortant du Saint des Saints, une voix se fit entendre. « Jusque-là, et pas plus loin. En vérité, nous sommes témoins de ce qu'ils ont fait et de ce qu'ils font encore. » Chapitre 43. Lohi Dunia, Acre, à Mullah Ali Akbar et Ayadi et à Bulhasan Amin. Ô Afnan, ô toi qui es issu de mon ancienne racine, sur toi demeure à jamais ma gloire et ma tendre bonté. Que vaste est le tabernacle de la cause de Dieu. Il couvre de son ombre les peuples et les fratries de la terre, et le temps n'est pas éloigné où il rassemblera sous sa protection l'humanité tout entière. L'heure est maintenant venue pour toi de servir. D'innombrables tablettes attestent les bienfaits dont tu fus gratifié. Lève-toi pour le triomphe de ma cause, et par le pouvoir de ta parole, subjugue le cœur des hommes. Offre-leur ce qui doit assurer la paix et le bien-être du pauvre et de l'opprimé. Saint terrain en vue de libérer le captif de ses chaînes et de le rendre capable d'atteindre à la vraie liberté. En ce jour, la justice se lamente sur son triste sort et l'équité gémit sous le joug de l'oppression. Les épais nuages de la tyrannie assombrissent la face de la terre et enveloppent tous ses peuples. Par le mouvement de notre plume de gloire, nous avons, sur l'ordre du Tout-Puissant Ordonnateur des choses, insufflé dans chaque être humain un renouveau de vie et instillé dans chaque mot une puissance nouvelle. Toute chose créée proclame les signes de cette régénération mondiale. Telle est la grande, la joyeuse nouvelle qu'apporte à l'humanité la plume de cette innocente victime. Pourquoi avez-vous peur, ô mes bien-aimés? Qui pourrait vous effrayer? La moindre humidité suffit à dissoudre la glaise durcie dans laquelle est modelée cette génération perverse. Le seul fait de vous rassembler suffit à briser les forces de ces êtres méprisables et vains. Tout homme éclairé reconnaîtra volontiers en ce jour que les conseils révélés par la plume de cet opprimé constituent la puissance animatrice suprême pour l'évolution du monde et l'exaltation de ses peuples. Ô peuple, levez-vous, et par le pouvoir de la puissance de Dieu, prenez la résolution de vaincre votre ego, dans l'espoir qu'un jour la terre entière soit sanctifiée et libérée de la servitude où la tiennent les dieux de ces vaines chimères, dieux qui ont infligé de si grandes pertes à leurs malheureux adorateurs et qui sont responsables de leur misère. Ces idoles constituent l'obstacle qui freine l'homme dans ses efforts pour avancer dans la voie de la perfection. Nous caressons l'espoir que la main de la puissance divine vienne en aide à l'humanité et la délivre de son état de profonde humiliation. Dans une des tablettes, ces mots furent révélés. « Ô peuple de Dieu, oubliez vos propres soucis, que vos pensées soient fixées sur ce qui réhabilitera le destin de l'humanité et sanctifiera le cœur et l'âme des hommes. La meilleure façon d'y parvenir est de poser des actes purs et saints, de mener une vie vertueuse et d'avoir un comportement noble. Des actes valeureux assureront le triomphe de cette cause, et un saint caractère renforcera sa puissance. Attachez-vous à la droiture, ô peuple de Baha. Tel est pour chacun d'entre vous le commandement que cet opprimé vous donne et le choix premier de sa volonté incoercible. Ô mes amis, il vous appartient de rafraîchir et de raviver vos âmes par les gracieuses faveurs qui pleuvent sur vous en cet émouvant printemps divin. Le soleil de sa grande gloire a posé ses rayons sur vous et les nuages de sa grâce sans limite vous couvrent de leur ombre. Quelle est prodigue la récompense de celui qui ne se prive pas d'une si grande munificence et qui ne manque pas de reconnaître, en sa nouvelle parure, la beauté de son bien-aimé. Veillez, car le malin est là, qui attend, prêt à vous prendre au piège. Protégez-vous de ses artifices perfides et guidez par la lumière du nom de Dieu, le clairvoyant, sortez des ténèbres qui vous environnent. Que votre vision soit universelle plutôt que confinée à vous-même. Le malin est celui qui entrave l'essor et le progrès spirituel des enfants des hommes. En ce jour, il incombe à tout homme de s'attacher à ce qui est propre à servir les intérêts et à exalter la condition de toutes les nations et de tout gouvernement juste. Chacun des versets révélés par la plume du Très-Haut a grand ouvert les portes de l'amour et de l'unité à la face des hommes. Nous avons déjà déclaré, et notre parole est la vérité, fréquenter les fidèles de toutes les religions dans un esprit d'amitié et de camaraderie. Tout ce qui était une cause d'éloignement, de trouble et de discorde entre les enfants des hommes est annulé et aboli par la révélation de ces paroles. Le plus puissant instrument d'éducation de l'espèce humaine a été envoyé du ciel de la volonté divine pour ennoblir le monde de l'existence et élever l'âme et l'esprit des hommes. Et de ce ciel de la volonté du Dieu éternel et tout-puissant sont descendus par cette puissante révélation la plus pure essence et l'expression la plus parfaite de tout ce qui a été dit ou écrit dans le passé. Il a été jadis révélé, l'amour de la patrie est un élément de la foi en Dieu. Mais au jour de sa manifestation, la langue de grandeur proclame « La gloire n'est pas pour celui qui aime son pays, mais pour celui qui aime le monde entier. » Par la puissance que dégagent ces paroles sublimes, il a donné et imprimé au mouvement ailé du cœur de l'homme une impulsion et une orientation nouvelles, et du même coup, effacé du Saint-Livre de Dieu toute trace de restriction et de limitation. Ô peuple de justice, brillez comme la lumière et resplendissez comme le feu qui brûlait dans le buisson ardent. L'éclat du feu de votre amour ne peut que réunir et unifier les peuples et les familles de la terre qui s'affrontent, alors que la fureur de la flamme, de l'inimitié et de la haine ne peut qu'entraîner conflits et ruines. Nous prions Dieu qu'il garde ses créatures des mauvais desseins de ses ennemis. Il a en vérité pouvoir sur toute chose. Toute louange au seul vrai Dieu, exalté soit sa gloire, pour avoir, par la plume du Très-Haut, ouvert la porte du cœur des hommes. Chacun des versets révélés par cette plume est un brillant portail qui montre les gloires d'une vie sainte et pieuse, et d'actes purs et sans tache. Nos appels et notre message n'ont jamais été destinés au bénéfice exclusif de tel pays ou de tel peuple. C'est toute l'humanité qui doit adhérer fermement à ce qui lui a été révélé et octroyé. Alors, et alors seulement, elle atteindra la vraie liberté. Toute la terre est illuminée de la gloire resplendissante de la révélation divine. Celui qui, en l'an 60, fut le héros de la lumière de la direction divine, puisse toute la création lui être offerte en sacrifice, se leva pour annoncer une révélation nouvelle de l'Esprit divin. 20 ans plus tard, il fut suivi par l'arrivée de celui dont la venue faisait du monde le bénéficiaire de cette gloire promise, de cette merveilleuse faveur. Admirez comment toute l'humanité a été dotée de la capacité d'entendre la parole sublime de Dieu, de laquelle dépendent le rassemblement et la résurrection spirituelle de tous les hommes. Ouvrez vos cœurs, ô peuple de Dieu, au conseil de votre véritable, votre incomparable ami. La parole de Dieu peut être comparée à un jeune arbre dont les racines plongent dans le cœur des hommes. Il vous appartient de favoriser sa croissance par les eaux vivifiantes de la sagesse, par des paroles saintes et sanctifiées, afin que ses racines puissent s'ancrer fermement et ses branches se déployer aussi haut que le ciel et au-delà. Ô vous qui vivez sur la terre, le trait marquant du caractère prééminent de cette révélation suprême est que nous avons, d'une part, effacé des pages du livre saint de Dieu tout ce qui était la cause de conflits, de malveillance et de troubles parmi les enfants des hommes, et que, d'autre part, nous avons posé les principes essentiels de la concorde, de la compréhension, de l'unité complète et durable. Heureux ceux qui observent mes ordonnances. À maintes reprises, nous avons adjuré nos aimés d'éviter, mieux, de fuir tout ce qui peut avoir des relents de discorde. Le monde est en désarroi, et la dernière confusion règne dans l'esprit de ses habitants. Nous implorons le Tout-Puissant pour qu'il les illumine, par sa grâce, de la gloire de sa justice, et leur permette de découvrir ce qui leur sera profitable en tout temps et en toutes circonstances. Il est en vérité l'Omnipossédant, le Très-Haut. Chapitre 44. À Esmaïl de Zarkan. Ne rejetez pas la crainte de Dieu, ô docte du monde, et jugez avec équité la cause de cet illettré dont tous les livres de Dieu, le protecteur, l'absolu, se sont portés garants. La peur de déplaire à celui qui n'a ni père ni égal ne vous éveillera-t-elle point? Jamais celui à qui l'on a fait tort ne s'est mêlé à vous. Il n'a jamais étudié vos écrits, ni participé à vos disputes. Le vêtement même qu'il porte, ses boucles flottantes, sa coiffure, atteste la vérité de ses paroles. Jusqu'à quand persisterez-vous dans votre injustice? Voyez la demeure imposée à celui qui est l'incarnation de la justice. Ouvrez les yeux, considérez quel est son sort et méditez avec application sur ce que vos mains ont accompli, afin de n'être pas privé de la lumière de son Verbe divin, ni frustré de votre part de l'océan de sa science. Certains parmi les grands de ce monde et parmi le bas peuple ont objecté que cet opprimé n'appartient pas à l'ordre ecclésiastique, ni ne descend du prophète. Dis, ô vous qui vous dites juste, réfléchissez un instant et vous reconnaîtrez que son état est infiniment exalté au-dessus de celui que vous prétendez qu'il devrait posséder. La volonté du Tout-Puissant a décrété que ce serait d'une maison entièrement dépourvue de tout ce que possèdent les religieux, docteurs, sages et savants, que sa cause procéderait et se manifesterait. Le souffle de l'Esprit divin l'ayant réveillé, lui ordonna de se lever pour proclamer sa révélation. Et voici qu'à peine tiré de son sommeil, il éleva la voix et appela à Dieu le Seigneur des mondes, l'humanité tout entière. Nous avons été incités à révéler ces paroles en considération de la faiblesse et de la fragilité des hommes. Autrement, la cause que nous proclamons est telle qu'aucune plume ne pourrait la décrire, ni aucun esprit en concevoir la grandeur. De cela porte témoignage celui qui possède le livre mère. Chapitre 45. À Muhammad Kableh Reza. Celui qui est la beauté ancienne s'est laissé charger de chaînes pour que l'humanité soit libérée de son esclavage. Et il a accepté d'être emprisonné dans cette puissante forteresse pour que le monde entier parvienne à la vraie liberté. Il a bu jusqu'à la lie le calice du chagrin, afin que tous les peuples de la terre atteignent à la joie éternelle et soient remplis d'allégresse. Ceci est dû à la miséricorde de votre Seigneur, le compatissant, le très miséricordieux. Nous avons, ô croyants en l'unité de Dieu, accepté d'être abaissés pour que vous soyez exaltés, et nous avons souffert une multitude d'afflictions pour que vous deveniez florissants et prospères. Or, voyez comment ceux qui donnent des associés à Dieu ont forcé d'habiter la plus désolée des cités, celui-là même qui est venu reconstruire le monde.